Puis c'est le dernier numéro de la saison et à cette occasion, Steven Jambeau a reçu Mathilde Mélin, spécialisée dans la critique de podcasts. Tous deux vous recommandent des séries à écouter pendant l'été et discutent aussi de la morosité ambiante dans l'écosystème du podcast.
Toujours un peu morose, malheureusement, du côté des studios. Il y a quelques jours, on a appris la fermeture de Podcast Story, la boîte de production de podcasts de l'animateur de radio Sébastien Coé, qui n'était pas un acteur majeur du secteur, mais tout de même, ça fait une fermeture supplémentaire. Mais les autres boîtes de podcasts continuent à vivre, continuent à produire des formats audio ou vidéo.
Mathilde, l'année dernière, on parlait aussi de la hype du podcast vidéo qui, semble-t-il, est en train de prendre de façon durable.
Ça continue avec beaucoup de force. Aujourd'hui, c'est presque impossible de lancer un nouveau podcast sans au moins réfléchir à une option vidéo. Un bon exemple de cette hype de la vidéo, c'est le Podcast Show à Londres, qui est le rendez-vous européen annuel des producteurs et productrices de podcasts, où cette année, les plus gros sponsors étaient des sponsors de production vidéo et la majeure partie des rencontres et des tables rondes portaient sur cette thématique. Donc c'est bien que le vent va dans ce sens.
Donc en gros, celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient lancer leur podcast conversationnel, tu leur conseillerais de faire ça dans un studio filmé, histoire de pouvoir avoir des pastilles vidéo ou même carrément de mettre l'intégralité de leur podcast sur YouTube par exemple?
Oui, ça permet d'avoir une meilleure découvrabilité, c'est un mot un peu barbare mais qu'on utilise beaucoup dans l'univers des podcasts, notamment parce que depuis un an ou deux, YouTube s'intéresse beaucoup au format podcast et pousse grâce à ses algorithmes beaucoup de formats conversationnels, à la fois en format vidéo et en format audio.
Et donc, qui dit vidéo veut dire aussi publicité, donc ça permet aussi de monétiser des productions de podcasts.
Steven Jambeau et Mathilde Mélin pour un atelier des médias spécial podcast. Rendez-vous à 11h10, temps universel sur RFI. Allez, dans une minute, vous ne bougez pas, le retour de l'actualité africaine comme promis. Ce sera avec Sébastien Duhamel. À tout de suite sur la Radio du Monde.
100% création, Maria Afonso.
Pour clore notre série estivale consacrée au centenaire de la maison Fragona, 100% création vous emmène dans l'univers mode avec Lena Torino. De grâce à Paris, Fragona est un univers où se côtoient parfumerie, mode, décoration et art de vivre. Retrouvez-nous à 4h54, 6h56 et 12h52 temps universel sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
Parler ne suffit pas, encore faut-il le faire avec nuance. C'est ce que fait la philosophe Julia de Funès au cours de notre conversation.
Il y a des distinctions décisives qui nous permettent de mieux argumenter, de penser de manière un peu plus rigoureuse, plus précise, et donc d'acquérir une forme de liberté personnelle et même politique, démocratique.
Idée, proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 19h10 TU sur RFI.
Cinq heures trente à Kinshasa, 6h30 ici à Paris. Merci d'être à l'écoute de Radio France Internationale. Et bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous.
Deuxième édition d'Afrique Matin avec cet espoir en RDC et cet outil dans la lutte contre Ebola.
Oui, une étude Nemo qui cherche à anticiper la propagation du virus. Un modèle en somme pour déterminer où les efforts devraient être concentrés notamment. C'est une étude internationale qui a été publiée cette semaine, mais il ne s'agit que de résultats préliminaires pour l'heure. Un espoir donc en effet. Un appel lancé par le Tchad ensuite, il lui faut plus de 12 millions de dollars pour venir en aide aux quelques 60 000 déplacés et réfugiés qu'abrite la région du lac. Une bonne nouvelle pour les Comoriens, 6 médinas des sultanats historiques des Comores, officiellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une grande journée de nettoyage national organisée hier en Ouganda. Pour assurer la propreté des lieux publics, les autorités instaurent cette journée le dernier samedi de chaque mois, désormais, et c'est obligatoire. Le journal des sports également au programme dans une dizaine de minutes. Et après le journal, notre reportage du jour nous emmènera lui au Nigeria, visite de l'AI Unipod, un centre de recherche sur l'intelligence artificielle, un centre qui est installé depuis cette année à l'université de Lagos. Voilà pour le menu, vous êtes les bienvenus sur la Radio du Monde. Et Est-il donc possible d'anticiper la propagation du virus Ebola? Déterminer un modèle permettant d'identifier à l'avance quelles zones et quelles régions sont susceptibles d'être touchées, ce serait une avancée considérable dans la lutte contre l'épidémie qui frappe actuellement la RDC et qui a déjà fait officiellement 1309 décès pour 2973 cas confirmés. Et anticiper la propagation, eh bien c'est justement l'objet d'une étude qui a été publiée donc cette semaine par des chercheurs de différents pays. Il s'agit pour l'heure, je le disais, de résultats préliminaires. Une publication scientifique est en cours, Pauline Azidi. Mais que peut-on lire dans cette étude pour le moment ?
Depuis le 15 mai, tous les acteurs de terrain sont unanimes sur le constat, on court derrière la maladie. L'épidémie avait de l'avance et ce retard se prolonge. Cette étude a comme ambition de tenter de répondre à cette problématique avec ce modèle de propagation du virus Bundibugyo qui doit permettre la priorisation des zones de surveillance. En collectant les données épidémiques jusqu'au 13 juillet, en les recoupant avec les déplacements, la densité de population et d'autres indicateurs, le rapport a mis en avant 10 zones de santé les plus à risque pour les deux prochaines semaines. 8 se situent en Ituri, qui reste donc l'épicentre de l'épidémie. Réti, Mahagi, Djiba, Biringi, Linga, Nyarambe et Angoumou. À cette liste s'ajoutent Lubero dans le Nord Kivu ainsi que Watsa et Gombari dans le Haut-Ouélé. Et effectivement, depuis la présentation du modèle, certaines zones ont connu leur premier cas comme à Mahagi. Pour les auteurs de cette étude, si l'on concentre la surveillance dans ces zones classées à risque, les chances de détecter au plus vite de nouvelles chaînes de contamination sont donc renforcées. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La RDC, où le procès du général Christian Tshiwe se poursuit devant la haute cour militaire avec 10 autres officiers supérieurs. L'ex-chef d'état-major général des forces armées est poursuivi, notamment pour complot, détention d'armes sans titre ni droit et violation des consignes. En audience hier, ses avocats ont demandé sa remise en liberté provisoire ou son placement en résidence surveillée, affirmant que sa fuite n'était pas une option. Prochaine audience désormais fixée à jeudi prochain, le 30 juillet. Un appel à mobilisation lancé par le Tchad pour venir en aide aux dizaines de milliers de déplacés et réfugiés de la région du lac. Des populations victimes de l'activité des groupes armés comme Boko Haram. Et au terme d'une mission d'évaluation menée la semaine dernière en partenariat avec les Nations Unies et l'ambassade d'Allemagne, le ministère tchadien de l'Action sociale estime qu'il faut réunir ici plus de 12 millions de dollars. N'Djamena, correspondance d'Olivier Monodji.
Près de 60 000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, soit plus de 10 000 ménages autour du lac Tchad ont fui des violences de Boko Haram pour s'ajouter aux populations autochtones des départements de Fouli et Kaya dans le lac, déjà en situation de grande précarité. Ces déplacés ont besoin d'aide alimentaire, d'eau, de soins nutritionnels et d'abri. Zahra Mahamat Issa est la ministre de l'Action sociale.
Derrière les statistiques, se trouvent des femmes qui peinent à nourrir leurs enfants, des jeunes dont l'avenir est compromis, des personnes âgées privées de soins, ainsi que des communautés autres qui continuent de partager leurs ressources malgré leurs propres difficultés. Je renouvelle notre appel à une mobilisation exceptionnelle des ressources.
Le constat sur le terrain est alarmant et nécessite une intervention. La coordination humanitaire qui a posé le premier jalon invite les autres partenaires à s'engager. Dr François Batalingaya, coordinateur résident du système des Nations Unies.
Il est impératif d'agir rapidement. Je suis heureux d'annoncer une allocation de 2 millions de dollars américains du Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre destiné à répondre aux besoins les plus urgents.
Selon les autorités tchadiennes, sur les 12 millions de dollars nécessaires pour secourir ces déplacés, seulement 6% ont été mobilisés à ces jours. Olivier Monodji, N'Djamena, RFI.
Le Tchad qui se félicite par ailleurs d'accueillir aujourd'hui pour la première fois des courses d'athlétisme qui sont reconnues par la Fédération internationale. Les coureurs s'élanceront donc de N'Djamena pour disputer plusieurs courses sur plusieurs distances, du simple kilomètre pour les enfants au semi-marathon pour les adultes. Plus de 800 dossards ont été acquis avant le départ. Ça, c'est une nouvelle dont les Comoriens se félicitent. 6 médinas des sultanats historiques des Comores viennent officiellement de rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un classement qui est l'aboutissement de plusieurs années de travail mené par l'État, par des experts, des acteurs associatifs, soutenus par différents partenaires à l'international. Une reconnaissance également qui suscite aujourd'hui beaucoup de fierté aux Comores, mais aussi de grands espoirs pour l'avenir du patrimoine, Abdallah Mzembaba.
Parmi ceux qui ont porté ce projet pendant de longues années, Fatima Boyer, la présidente et membre fondatrice du collectif Patrimoine des Comores, a appris la nouvelle en juin. Pour elle, cette inscription marque l'aboutissement d'un combat commencé il y a 20 ans.
Apprendre, entendre aujourd'hui leur nomination, Pour moi, c'était une grande fierté. C'est la consécration d'un rêve qui devient une réalité et qui est sous-tendu pour le développement des Comores. Nous, on avait l'habitude de dire « faire connaître pour faire reconnaître ». Donc, je pense que notre slogan, c'est acquis aujourd'hui.
Une émotion largement partagée par les Comoriens, nés et grandis dans la médina de Moroni, Ahmed Ali Amir estime que cette reconnaissance redonne toute sa place à l'histoire de l'archipel et à son héritage.
Pendant longtemps, les Comores ont été connus pour leurs difficultés économiques et politiques. Aujourd'hui, le monde nous regarde autrement. Cette reconnaissance représente avant tout une immense réhabilitation de notre histoire. Les Comores ont été pendant des siècles un carrefour entre l'Afrique, le monde arabe, la Perse, l'Inde et l'Asie. Nos médinas racontent cette histoire d'échange, de commerce, de savoir et de dialogue entre les civilisations.
Le combat pour la reconnaissance est désormais gagné, mais cette inscription n'est pas une finalité. Elle ouvre une nouvelle étape, celle de la préservation, de la valorisation et de la transmission de ces 6 médinas, désormais inscrites parmi les biens les plus précieux du patrimoine mondial. Abdelham Zembaba Moroni, RFI.
C'est une première en Ouganda. Les citoyens ont été invités hier à participer à une journée de grand nettoyage national. Comme son nom l'indique, il s'agit de faire le ménage, en somme, s'assurer de la propreté des lieux de vie. Mesure lancée par le gouvernement qui invite à répéter cette journée de nettoyage tous les derniers samedis de chaque mois pendant 3 heures. Et ceux qui souhaiteraient y échapper seront manifestement passibles de poursuites, Clotilde Hazard.
Le slogan de l'opération est clair, un Ouganda propre est la responsabilité de tous. Tout le monde doit donc désormais participer à la propreté des rues, en tout cas tous les Ougandais en bonne santé qui ont entre 18 et 65 ans, les étrangers qui résident dans le pays également. Les plus de 65 ans désireux de participer sont les bienvenus, a précisé le porte-parole du gouvernement Denis Patrick Katungi, ajoutant que les parents sont libres d'impliquer leurs enfants adolescents. Entre 7h et 10h du matin, ils devront faire place nette dans les lieux publics comme les marchés, les écoles, les structures de santé, les routes ou encore les lieux de culte. Le gouvernement précise que ce jour de nettoyage est un devoir civique et qu'il n'est pas facultatif. Seules les professions dites essentielles sont exemptées. Les commerces doivent aussi fermer pendant les 3 heures dédiées. Ce type de travaux communautaires obligatoires existe déjà dans les pays voisins, au Rwanda et au Burundi. En RDC, il y a aussi la tradition du Salongo, opération de nettoyage collectif des quartiers, relancée et devenue obligatoire à Kinshasa depuis plus d'un an.
Clotilde Hazard, au Sénégal, qui raille les Patriotes Républicains, voilà le nom du nouveau parti du président Bassirou Diomaye Faye. La formation a été officiellement lancée hier à Dakar en remplacement de la coalition Diomaye Président et à la suite bien sûr du divorce avec le PASTEF et son chef Ousmane Sonko, l'ex-premier ministre aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Allez, direction Madagascar à présent pour évoquer un sujet de société. Car sur place, l'hiver austral, actuellement en cours, marque aussi la période des circoncisions. Et cela s'explique par une raison pratique, car à cette saison, les températures fraîches favorisent la cicatrisation. Et c'est une tradition qui est respectée par un grand nombre de familles malgaches, qui se tournent d'ailleurs de plus en plus vers des médecins professionnels. Reportage signé Guilhem Fabry.
Les pleurs et les cris des jeunes garçons se mêlent aux musiques de fête dans ce gymnase de la capitale. Le jour est à peine levé qu'une cinquantaine de familles se pressent devant une rangée de tables où ont été disposées compresses, bassines et outils stérilisés. Emmanuel, 3 ans, patiente calmement sur les genoux de son père Gilbert.
Je l'ai prévenu qu'on allait lui enlever son prépuce. La circoncision est très importante pour nous malgaches. C'est ainsi que le garçon devient un homme et qu'il est en bonne santé. On a veillé toute la nuit en dansant avec la famille et les amis. Après la circoncision, on les invitera pour partager un repas.
Le jeune garçon est fermement tenu par ses proches pendant quelques minutes. Le temps, explique le docteur Rabé Manonza, que soit appliquée la méthode dite à l'américaine.
On nettoie d'abord la zone où on va intervenir et on injecte de l'anesthésie. Vous avez vu un instrument là qui est un bistouri électrique donc pour éviter les saignements. Et on finit par appliquer la biafine.
Mam est venue accompagner son petit-fils. La tradition malgache lui confère un rôle particulier. Une fois de retour à la maison, quand la circoncision sera terminée.
Le grand-père mange alors le prépuce avec un morceau de banane. Je suis très heureux, car c'est déjà mon 3e petit-fils.
Les jeunes garçons quittent, eux, le gymnase les yeux humides avec des jouets en guise de consolation et une blouse spéciale, le malabar, apportée quelques semaines pour favoriser la cicatrisation. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
Et c'est donc à Antananarive que se referme le journal, mais Afrique Matin continue, bien sûr.
Afrique Matin sur RFI.
4h41 en temps universel, RFI Matin avec Clotilde Dumais. Ce sera dans un petit peu plus de 18 minutes. Mais avant cela, on ira visiter, nous, une université du continent après le pôle de recherche en intelligence artificielle de Rabat hier. Direction ce matin le Nigeria pour visiter les AI Unipod implantés depuis cette année au sein de l'université de Lagos. Il y a quoi sur tes réseaux ? Notre chronique des 18-25 ans. Ce matin, on ira parler avec Lola, une jeune habitante de Nantes dans l'ouest de la France, qui a vu ses réseaux sociaux s'affoler autant que son thermomètre ces dernières semaines. 100% création, on refermera notre série sur la maison Fragonard qui fête cette année son centenaire. Mais d'abord, comme tous les jours, c'est bien sûr le journal des sports. Et c'est avec vous, Baba Cardiara. Bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Bon, on parle football féminin, évidemment, aujourd'hui, car les stars partent à la conquête aujourd'hui de la 14e Coupe d'Afrique des Nations. Ça se joue au Maroc.
C'est la 3e édition de rang organisée par le Royaume chérifien et les Lions de l'Atlas. Double finaliste perdante en titre, espèrent enfin l'emporter. Les Marocaines ouvriront leur compétition ce soir à 20h temps universel au stade Moulay Hassan de Rabat face au Kenya. Mais le vrai match d'ouverture aura lieu un peu plus tôt, à quelques kilomètres de là, au stade olympique, entre l'Algérie et le Sénégal. Deux sélections stoppées par les tirs au but au stade des quarts de finale l'an dernier. Les Fennec Dames veulent démontrer qu'elles abordent cette compétition avec de la stabilité et des progrès. Ce sont les vœux de la capitaine Sofia Gelati au micro de Mathias Reynal.
Le groupe vit bien, on se sent bien les unes pour les autres et on est vraiment ensemble. Et ça se sent, je pense, sur les performances. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec essentiellement le même groupe de filles au sein de la sélection. Et l'année dernière, c'était notre première Coupe d'Afrique. On va se servir de toute cette expérience, entrecouper des matchs de qualification contre le Cameroun, les matchs amicaux, notamment contre la Zambie, pour grandir ensemble, en fait, et évoluer et développer la compétence d'aller le plus loin possible. Je pense que c'est important de le faire avec beaucoup d'humilité.
Algérie, Sénégal, en match d'ouverture de la CAN féminine. Ce sera donc à 17h, Babacar. Et pour le moment, direction la Côte d'Ivoire, où l'après-mondial est plutôt flou hein, chez les éléphants.
Quel avenir pour Emers Faye sur le banc ivoirien? Ce samedi, la situation contractuelle du sélectionneur de 42 ans était dans toutes les conversations. Des informations évoquaient une prolongation temporaire. Notre correspondant à Abidjan, Molamin Sissavane, tente de tirer les choses au clair.
Les informations publiées depuis ce samedi et les larges commentaires suscités ont une et même source. Une publication du journaliste sportif ivoirien Saint-Séverin annonçant la reconduction d'Emers Faye à l'issue d'un comité d'urgence. Contactée, la fédération répond qu'elle n'a fait aucune communication dans ce sens et se refuse à tout commentaire. Une source à l'institution indique tout de même que si le coach n'a pas été limogé après la Coupe du Monde, c'est qu'il tient toujours le gouvernail sans nécessité de reconduction. La même source précise que le contrat de Emers Faye relève du secret professionnel et qu'en tant que tel, les non-parties au contrat n'en savent pas l'échéance. Cependant, une source confirme du bout des lèvres la reconduction des sélectionneurs jusqu'en septembre où débutent les éliminatoires de la CAN. Car, explique cette source, la FIFA expédie les affaires courantes jusqu'au 12 septembre, date de l'élection du président de la fédération. Un comité d'urgence aurait donc reconnu Emers Faye pour un court terme, quitte au vainqueur de l'élection de le faire à plus long terme ou pas. L'ex-adjoint de Jean-Luc Gassé a été nommé en février 2024 en pleine CAN remportée. Aujourd'hui, l'opinion est partagée entre ceux qui veulent sa reconduction pour la stabilité et ceux qui réclament son départ pour insuffisance. Molamin Sissavane, Abidjan, RFI.
Le journal des sports sur la radio du monde.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h45 en temps universel, c'est l'heure de jeter un coup d'œil sur l'actualité internationale de ce dimanche 26 juillet 2026. C'est le feu, tout d'abord, qui ravage toujours la Nouvelle-Aquitaine et plusieurs autres endroits en France. Hier soir, les autorités ont décidé de nouvelles évacuations dans plusieurs communes aux abords de Bordeaux, dont Sesta, 55 000 habitants. L'armée a été appelée en renfort avec un total de 1 500 militaires mobilisés. D'autres incendies restent par ailleurs très actifs dans les départements du Var, dans le Sud-Est et de la Haute-Corse également. En Espagne, le brasier, lui aussi, toujours aux portes de Madrid. Hier soir, l'évacuation de 8 nouvelles communes de la région de Tolède a été ordonnée par les autorités. 60 000 personnes ont déjà été évacuées autour de la capitale. Les rebelles houthis du Yémen, alliés de Téhéran, qui ont ciblé hier des sites pétroliers dans l'Arabie saoudite voisine, en riposte à des frappes de Riyad. Ces nouveaux affrontements dans la zone stratégique de la mer Rouge alimentent les inquiétudes concernant le transport mondial des hydrocarbures. Au Brésil, l'investiture pour la présidentielle d'octobre de Flavio Bolsonaro, qui se pose en héritier de son père, Jair Bolsonaro, détenu pour tentative de coup d'État. Flavio Bolsonaro affrontera donc Lula, qui à 80 ans briguera un 4e mandat. C'est un enjeu numérique crucial pour l'avenir et le continent compte bien en être. Pour notre série sur les universités africaines d'exception, on part ce matin au Nigeria, à Lagos, où l'AI Unipod a été lancé en avril dernier sur l'intelligence artificielle donc, et c'est le fruit d'une collaboration entre le programme des Nations Unies pour le développement, le gouvernement fédéral nigérian et le TED Fund, une agence nigériane chargée de promouvoir la recherche et l'innovation dans les établissements publics d'enseignement supérieur. C'est un reportage ce matin signé Harmonie Pondiniaga.
Ici, on ne retrouve pas de salle de classe classique, ni d'amphithéâtre, mais plutôt un univers qui rappelle celui des start-up, avec un open space sur deux niveaux et du mobilier coloré. L'AI Unipod, au cœur du campus de l'Université de Lagos, est équipé de plusieurs ateliers pour l'impression 3D, la robotique ou la simulation de réalité virtuelle. Un environnement propice aux échanges et à la création, comme l'explique professeur Chika Yinka-Bajo, directrice de l'AI Unipod.
Nous voulons créer une infrastructure de recherche sur l'IA pour l'Afrique de l'Ouest. Donc si vous pensez à « je veux faire de l'IA, où puis-je aller ?» Si vous avez un problème à résoudre, où puis-je aller ? Nous voulons que cet endroit soit la réponse.
Entre ces murs, Kenneth Silva Eboagou, 22 ans, étudiant en physique de l'électronique, a conçu le prototype d'un robot détecteur de mouvement pour la vidéosurveillance.
L'accès à l'équipement, aux espaces de travail, aux personnes partageant les mêmes idées, des personnes avec lesquelles on peut collaborer et construire. Unipod essaie de combler cet écart en fournissant tout cela. Nous ne laissons pas les idées rester des idées, mais nous les transformons en vrais produits.
À l'étage, dans les AI Labs, John Hicks, étudiant en sciences des données, travaille lui aussi sur une technologie de vidéosurveillance capable d'identifier des objets, des comportements spécifiques au Nigeria et plus largement à l'Afrique.
À l'ère de l'IA, les choses évoluent rapidement et l'Afrique est exclue du jeu parce que nous n'avons pas d'ensemble de données qui aiderait à former des modèles, nous n'avons pas d'ensemble de données qui aiderait à mener des recherches afro-centrées ou des choses qui sont propres à l'Afrique.
Cholarina Kitunde, en dernière année d'ingénierie électronique, a fondé son agence de formation pour répondre aux besoins des professionnels nigérians qui souhaitent évoluer vers un business intelligent.
Une de mes étudiantes vend des vêtements, des tissus et tout ça. Elle a tiré la plupart de son public par le bouche à oreille. Et elle voulait faire évoluer sa plateforme vers le digital avec un site internet. Je lui ai appris la création de contenu, l'automatisation et même un peu de développement web avec l'IA. Et elle a été capable d'avoir son propre site internet et son propre chatbot.
L'AI Unipod servira de modèle pour 5 autres pôles répartis à travers le pays et notamment spécialisés dans l'agriculture, l'économie bleue ou encore l'industrie des minerais. Harmonie Pondiniaga, Lagos, RFI.
Notre reportage sur l'AI Unipod de l'Université de Lagos à retrouver, à partager, comme tous nos reportages sur Internet, bien sûr. Et comme chaque dimanche, c'est l'heure maintenant de retrouver « Y'a quoi sur tes réseaux ?», notre chronique réalisée en collaboration avec 7 jeunes de 15 à 25 ans, venus d'horizons tout à fait différents. Et ce matin, direction Nantes, dans l'ouest de la France, où le thermomètre a dépassé les 40 degrés lors de la récente vague de chaleur. Une canicule omniprésente justement sur les réseaux sociaux de Lola, 25 ans, rencontre signée Anna Le Serre.
Eh, honnêtement, avec cette canicule, j'ai l'impression d'être une merguez. Je vous jure les gars, à 10h je suis saignante. À midi je suis à point, à 14h je suis bien cuite.
Cette vidéo a beaucoup fait rire Lola, parce qu'à ce moment-là, elle aussi avait l'impression de cuire dans son appartement. Sur les réseaux sociaux, l'humour devient alors une façon de relâcher la pression face à une période de chaleur extrême difficile à supporter.
Moi, je travaillais à cette période-là. Donc soit j'étais en train de bosser, soit j'étais en train de comater, à moitié siester dans mon lit, soit effectivement j'étais sur les réseaux à trouver des techniques, à essayer de trouver des ventilateurs aussi.
Pour Lola, la canicule se vit d'abord très concrètement dans son studio nantais. Elle cherche des solutions pour réussir à dormir, travailler et simplement supporter la température.
T'as juste à ouvrir les fenêtres le matin quand il fait encore frais et tu tournes ton ventilateur vers l'extérieur.
Donc c'est une bouteille qui a des trous et il y a des petits pois congelés dedans.
J'ai testé l'astuce du blanc de meudon sur mes fenêtres, qu'est-ce que ça vaut vraiment ?
Et oui, je cherchais tous les moyens possibles, genre... c'est comme ça que je me suis retrouvée à mettre de l'aluminium sur mes fenêtres pour combattre la chaleur.
Et ce que Lola découvre sur les réseaux, ce sont aussi les témoignages de personnes encore plus exposées qu'elle. Celles qui vivent sous les toits, dans des logements mal isolés, parfois avec des températures qui dépassent les 35 degrés à l'intérieur.
Vraiment, la canicule, moi ça me met très très fort en colère. Je fais des blagues et tout, mais vraiment tous les témoignages que j'ai vus sur les réseaux sociaux, des gens qui étaient sous les combles et qui mettaient une poêle leur fenêtre et qui mettaient un œuf dessus pour faire un œuf au plat et ça cuisait. T'es là, mais on est où là? On en arrive là.
Et c'est cette réalité sociale qui va alimenter l'une des plus grosses polémiques de la canicule sur les réseaux sociaux. Un billet d'humeur de Yann Barthès dans l'émission Quotidien de la chaîne TMC provoque de nombreuses réactions. L'animateur explique que tout le monde a chaud, même Bernard Arnault, le milliardaire et patron de LVMH. Une phrase qui fait réagir parce qu'elle semble oublier une chose, tout le monde ne traverse pas une vague de chaleur dans les mêmes conditions.
Petit concept pour Yann Barthès, la prochaine fois tu fais ton émission sans la clim sous les toits et on verra si on est tous logés à la même enseigne.
Je pense pas que Bernard Arnault est chaud comme moi.
Et on trouve aussi beaucoup d'interviews de scientifiques. Ils rappellent tous que ces épisodes extrêmes avaient été annoncés depuis longtemps.
Mais ça fait 30 ans qu'on le dit.
Comme ici, la géographe Magali Gregueza-Zitt dans un extrait de La Grande Librairie qui était beaucoup repartagé.
Si on devait monter des murs avec tous les bouquins qui ont été écrits, toutes les manières d'alerter, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Qu'est-ce que nous scientifiques, on n'a pas dit?
Et j'ai l'impression que c'est un contenu que j'ai plus vu ces derniers temps. Est-ce que les gens le comprennent dans leur individualité de l'impact du dérèglement climatique sur eux? Donc je pense que ça, il y a une vague de repartage beaucoup plus intense.
Mais au milieu de cette fatigue et de cette colère, les réseaux sociaux gardent aussi leur fonction de soupape.
Je viens d'avoir un petit doute sur mon radiateur.
Cette vidéo d'un créateur qui plaisante sur son chauffage oublié fait bien rire Lola.
Ah putain, j'avais oublié de l'éteindre. Et oui, c'est moi. Oh, il était réglé sur 39, pardon.
Et moi, j'ai eu le réflexe du coup de regarder si mon chauffage était allumé par vraiment espoir de faire descendre la température. Évidemment, non.
Les réseaux de Lola pendant la canicule, un mélange de débrouille, d'inquiétude et de colère. Un espace où une génération raconte aussi ce qu'elle attend des responsables politiques à l'approche de l'élection présidentielle française de 2027. Il y a quoi sur tes réseaux? À bientôt.
Et oui, à bientôt, Anna Le Serre, précisément rendez-vous le dimanche 6 septembre pour écouter un nouvel épisode de Y'a quoi sur tes réseaux qui observe entre-temps une petite pause estivale. Et pour l'heure, 6h53 à Paris, 100% Création referme sa série estivale consacrée à la maison Fragonard qui célèbre cette année son centenaire. Rencontre ce matin avec Léna Torino, responsable du pôle mode de la maison, plutôt connue habituellement pour ses parfums mais qui donne donc également dans le prêt-à-porter. C'est bien sûr Maria Afonso qui nous en parle.
Ce qui me plaît, c'est voir se réaliser un processus commun de création. Je trouve ça très émouvant.
Léna Torino, responsable du pôle mode de la maison Fragonard.
L'idée, c'est de proposer quelque chose de nouveau et qui inspire celle ou celui qui l'achète. Il y a de la fantaisie chez Fragonard et il y a du bonheur. Et quand on achète un produit Fragonard, je pense que ça se ressent. Il y a ce côté transmission de bonnes ondes.
Léna Torino est née à Grasse, capitale mondiale du parfum. Elle a grandi à Vence, dans le sud de la France. La tante de son père, Hélène Costa, et la mère d'Anne, Agnès et Françoise, les actuelles dirigeantes de Fragonard. C'est elle qui lui fait découvrir l'artisanat de cette maison dès son jeune âge. Après ses études en école de commerce, Léna Torino passe une année de césure dans les bureaux de Fragonard à Paris. Elle y découvre le processus créatif de la maison entre Agnès Webster, présidente de Fragonard, et Jean Huège, à la tête de la création de la maison.
Une école de commerce, c'est pas particulièrement formateur en termes de création de produits. Et en travaillant avec Jean et Agnès, tout de suite, on s'est rendu compte que mon œil se portait sur les mêmes choses, que je prenais énormément de plaisir à graviter autour des deux. J'étais jeune, j'étais en 2010. J'avais aucun mal à prendre part à la conversation du haut de mes 20 ans. Ça a été un coup de cœur professionnel, c'est-à-dire du travail et des personnes. Une évidence qu'on avait une alchimie incroyable. Tous les trois.
Les voyages inspirent les collections de Fragonard. Roumanie, Inde ou Turquie, chaque destination révèle des artisanats uniques. Sculptures sur bois, broderies cachemire, masques folkloriques ou techniques d'impression traditionnelles.
Très très souvent, l'idée vient d'Agnès. Elle sait où la tendance va être. Et on va apporter donc chacun nos propres idées, notre patte. Au maximum, on essaye d'intégrer un type d'artisanat et d'importer un savoir-faire. Donc ça, c'est une partie de l'inspiration. Ensuite, nous, on va revenir nourris de photos, de documents, d'idées. Ça nous sert de base pour ensuite venir tirer des ficelles sans jamais reproduire à l'identique une inspiration.
Et ça, c'est tout le travail du studio Fragonard.
Retrouvez tout l'univers de Léna Torino et de la maison Fragonard en podcast sur RFI.fr, chronique 100% création, sur RFI Pure Radio et en images sur les réseaux sociaux.
Chamak, chamak, 100% création tous les dimanches avec Maria Afonso sur RFI. Allez, avant RFI matin avec Clotilde Dumais.